Bienvenue dans l'émission Sursum Corda, le podcast qui vous fait redécouvrir les trésors de la foi chrétienne, semaine après semaine. Je suis l'abbé Mathieu Raffray, prêtre et théologien, et je vous propose à chaque épisode de plonger ensemble dans le catéchisme de l'Église catholique. L'occasion d'éclairer les grands problèmes de notre temps, les grandes questions de tous les temps, à la lumière de l'enseignement de l'Église. Ce podcast est proposé chaque jeudi à 17h sur Radio Courtoisie, puis il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute le dimanche à midi. Soutenez-le, faites-le connaître autour de vous. Saison 2, épisode 26, sacramentaux et exorcisme. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'avant-dernier épisode de cette saison. C'est bientôt fini. Il restera un épisode sur les funérailles chrétiennes. Et donc cette saison, nous serons arrivés au terme de cette étude des sacrements. Et puis nous nous retrouverons, pour ceux qui nous écoutent en direct, nous nous retrouverons à la rentrée, au mois de septembre, pour attaquer la troisième partie du catéchisme sur la morale. Donc sur l'étude des 10 commandements. Alors, pour aujourd'hui, nous en sommes donc aux questions 351 à 353 du compendium du catéchisme de l'Église catholique, qui regroupe sous le terme « les autres célébrations liturgiques » trois questions qui ont l'air un peu annexes comme ça, mais qui me semblent tout à fait très intéressantes, tout à fait fondamentales et extrêmement riches. Alors, première question, puisque les autres célébrations liturgiques, c'est ce qu'on appelle les sacramentaux. Que sont les sacramentaux ? Donc, par distinction avec les sacrements. Ce sont des signes sacrés institués par l'Église dans le but de sanctifier certaines circonstances de la vie. Ils comportent une prière accompagnée du signe de la croix et d'autres signes. Parmi les sacramentaux, les bénédictions occupent une place importante. Elles sont une louange à Dieu et une prière pour obtenir ses dons. De même, il y a les consécrations de personnes et la consécration d'objets dont l'usage est réservé au culte divin. Alors, vous voyez, les sacramentaux, finalement, sont beaucoup plus souvent utilisés qu'on le croit. Par exemple, lorsque vous rentrez dans une église, vous prenez de l'eau bénite, vous faites un signe de croix, c'est un sacramental. Un sacramental, c'est-à-dire un signe sensible, sacré, qui va donner une grâce. Mais non pas comme les sacrements. Alors, il y a plusieurs différences, plusieurs distinctions entre les sacrements et les sacramentaux. La première, celle qui est mentionnée ici, c'est que ces signes sacrés ont été institués par l'Église. C'est pas le Christ qui a institué les sacramentaux comme il a institué évidemment les 7 sacrements. Et puis d'autres différences qui n'est pas explicite ici mais qui est inclus dans la définition, c'est que il ne donne pas la grâce ex opere operato comme c'était le cas, nous l'avions vu, pour les sacrements. La grâce du sacrement est reçue à partir du moment où il y a la matière, la forme et l'intention du ministre, et donc les dispositions nécessaires, eh bien, la grâce est toujours obtenue. Eh bien, dans le cas des sacramentaux, il faut évidemment que le geste, la prière soit accompli, mais la grâce n'est pas automatique et donc elle n'est pas donnée en raison même du sacrement, mais elle va être donnée en proportion de la dévotion et de la sainteté de celui qui accomplit ce geste. Donc, par exemple, conséquence, je viens de mentionner le fait de faire le signe de croix quand on rentre avec l'eau bénite quand on rentre dans une église, eh bien, faites le signe de croix avec grande dévotion, avec une grande dévotion, et c'est comme ça que vous obtiendrez des grâces pour vous-même, pour les autres, pour le monde. Donc, c'est très important de s'appliquer. Par exemple, les bénédicités, puisque, voilà, parmi les sacramentaux, les bénédictions au plus occupent une place importante. Il y a un livre des bénédictions dans l'église, et tout le monde, on peut bénir. Alors, ces bénédictions ont différentes valeurs. C'est le prêtre ou à partir des ordres mineurs, à partir de l'ordre du lectorat, dans la pratique ancienne, que l'on peut bénir les fruits et donc la nourriture de la table par une bénédiction, disons, sacramentale. Mais bien sûr, un père peut bénir ses enfants, une mère de famille peut bénir le repas en récitant la prière de bénédiction avant le repas. Alors, ces bénédictions occupent une place importante puisqu'elles sont une louange à Dieu et une prière pour obtenir ses dons. De même, c'est la fin de cet article, il y a les consécrations de personnes et la consécration d'objets. On a déjà parlé de ce qui est sacré. Ce qui est consacré, c'est ce qui est destiné à un usage particulier. Donc une personne est consacrée lorsqu'elle se réserve pour Dieu. Un objet consacré lorsqu'il est réservé au culte divin. Un lieu est consacré, un lieu est sacré lorsqu'il est réservé pour une certaine utilisation. Il y a des lieux sacrés profanes, par exemple, je me souviens du salon dans la maison de ma grand-mère, c'était un lieu sacré, évidemment de façon non religieuse, du sacré naturel, pardon, pas profane, du sacré naturel, parce que on rentrait, les enfants n'avaient pas le droit de rentrer dans le salon. C'était un lieu réservé aux adultes, mais réservé aux grandes occasions. Rarement, ma grand-mère ouvrait le salon pour prendre le café après le repas du dimanche, et puis nous, on n'avait pas le droit d'entrer parce qu'il fallait pas casser les choses, etc. C'est important qu'il y ait des choses sacrées ou des gestes sacrés, même du sacré commun, sacré naturel. Évidemment, le sacré par excellence, c'est le sacré surnaturel, donc les lieux réservés à ce qui est divin, à ce qui est religieux, d'où la notion de profanation. Parce que ce qui est profane, c'est profanos, c'est ce qui est ce qui vient avant le temple, c'est l'entrée du temple. Donc c'est ce qui est en dehors du sacré. Et c'est pour ça qu'on dit qu'un lieu est profané un lieu sacré est profané lorsqu'on y accomplit une action, un geste ou des paroles qui ne conviennent pas au caractère sacré du lieu. Et donc il perd sa consécration. Il est profané. Vous vous souvenez peut-être de ce gars-là, ce jeune, je sais plus comment il s'appelle, qui était allé danser, là, se dandiner dans une église pour faire le buzz sur TikTok. Et bon, ça avait été l'occasion. Je me souviens de Baptiste Marché qui avait été invité pour le confronter, parce que lui, il se défendait. Enfin, il disait que c'était tout à fait normal et que pourquoi il aurait pas le droit de faire ça. Lui, il avait bien le droit de faire ce qu'il voulait dans les églises. Et donc, Baptiste Marché lui avait répondu... de façon très, tout à fait claire et nette, qu'il risquait de lui donner une baffe. enfin, tout ça pour dire que, je sais pas si vous vous souvenez de ça, mais ce pauvre garçon n'avait aucune notion de ce qu'était un lieu sacré, donc réservé pour le culte divin. Alors retrouvons le sens des sacramentaux, de l'eau bénite, des objets bénis. N'hésitez pas à faire bénir vos objets sacrés, vos croix, les croix que vous portez, les médailles, les images. On peut les faire bénir, les maisons aussi. On peut faire bénir les maisons. C'est une chose moi que j'aime beaucoup et que les prêtres aiment bien faire. C'est l'occasion en plus de leur offrir un bon dîner. Et inviter les prêtres pour qu'ils viennent bénir votre maison. Il faut bénir les voitures aussi. J'ai fait des bénédictions de voitures parfois en grand nombre. C'est très beau la bénédiction de la voiture dans le rituel catholique. Ça dit que voilà, ça prend les exemples où il y a le char. Vous savez, où il y a le serviteur de la reine d'Éthiopie qui rencontre l'apôtre Philippe après la résurrection, et ils font le voyage sur un char, et puis il lui parle de la foi, et donc le serviteur de la reine lui dit qu'est-ce qui empêche, il y avait de l'eau à côté, il dit qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé, donc il se fait baptiser. Et donc il dit comme de la même façon que lorsque quiconque montera dans cette voiture que je bénis, eh bien il soit porté vers le baptême, vers Dieu, et comme un transport vers le ciel. Par exemple, il faut faire venir les objets, n'hésitez pas, les prêtres. Ça, c'est une chose qui, malheureusement, en France, à cause de l'espèce d'esprit rationaliste imposé depuis Descartes et par les soi-disant lumières, qui sont finalement l'obscurité de la raison, eh bien, l'obscurcissement de la raison, eh bien, on a perdu ce sens du sacré, justement. Mais dans des pays, en Espagne, en Italie, vous avez beaucoup plus ce sens du sacré. En Amérique latine, c'est très très fort, je me souviens... Je suis allé plusieurs fois à Bogota, puisqu'on a une maison de l'Institut du Bon Pasteur à Bogota. Et alors, après chaque messe, il y a une grande table sur laquelle les gens déposent leurs objets à bénir, de l'eau, du sel, de l'huile. Ils font bénir ça. Donc le prêtre, à chaque fois, fait toutes les bénédictions, etc. Et c'est pour certains, bon alors, il faut faire attention à ne pas tomber dans la superstition. Mais pour certains, c'est très très important d'avoir ces objets bénis chez eux. Et il est clair que nous, en France, on doit retrouver ce sens des objets bénis. Par exemple, si vous allez à la messe le 2 février pour la Chandeleur, ou si vous allez à la messe pour peut-être le Jeudi Saint, pour la procession au Saint-Sacrement jusqu'au reposoir, on vous donne des cierges qui sont bénis. Ces cierges bénis, il faut les garder. Il faut les garder et les faire brûler. Ou les cierges de baptême, par exemple. À votre baptême, vous avez reçu un cierge, au baptême de vos enfants, ils ont reçu un cierge. Il ne faut pas hésiter à les faire brûler. Ce sont des cierges bénis. Il faut les faire brûler, par exemple, dans des moments, je ne sais pas, s'il y a une tempête, s'il y a un danger, si vous avez peur de quelque chose, si l'enfant a peur de quelque chose, voilà, il ne faut pas prendre le risque de mettre le feu non plus, mais il faut utiliser ces objets bénis par l'Église, parce que tout ça, ça fait que la foi n'est pas simplement une adhésion intellectuelle, mais elle est vraiment ancrée dans la vie, dans des pratiques, etc. On y reviendra avec les formes de piété populaire, d'ailleurs. Avant cela, c'est la question suivante, mais avant cela, question 352, qu'est-ce qu'un exorcisme? Alors voilà, je suis sûr que beaucoup, en voyant le titre, se sont dit, oh là, voilà, on va parler des exorcismes. Il y a une certaine curiosité qui peut être parfois malsaine envers cela. Mais allons-y. Alors, on a affaire à un exorcisme lorsque l'Église demande avec son autorité, au nom de Jésus, qu'une personne ou un objet soit protégé contre l'emprise du malin et soustrait à son empire. Sous sa forme simple, il est pratiqué lors de la célébration du baptême. L'exorcisme solennel, appelé grand exorcisme, ne peut être pratiqué que par un prêtre et avec la permission de l'évêque. Donc voilà, un exorcisme, c'est l'Église qui demande avec son autorité, au nom de Jésus, qu'une personne ou un objet soit protégé contre l'emprise du malin et soustrait à son empire. C'est très important, il n'y a que l'Église et ceux que l'Église a revêtus d'une certaine autorité, donc directement, c'est l'évêque qui est l'exorciste dans chaque diocèse, et qui peut effectivement chasser au nom de Jésus la possession ou l'habitation du démon dans une personne ou un objet. Alors on parle de possession pour une personne et d'infestation pour un objet ou un lieu. Alors je sais pas, ceux qui écoutent peut-être doutent de la réalité de cela, mais l'expérience des prêtres, c'est que ça existe vraiment. Ça existe vraiment. Alors moi-même, je le dis très clairement, moi-même je n'ai jamais fait d'exorcisme, je ne souhaite absolument pas en faire parce que j'ai plutôt peur de tout ça. Il faut savoir reconnaître ses faiblesses, ses limites. J'ai d'autres domaines de compétences, mais non, j'ai pas du tout envie d'avoir affaire avec le démon, et je m'en garde et je laisse cela à d'autres prêtres plus sains et plus armés que moi. Mais de fait, le démon peut prendre possession d'un lieu, infester un lieu, ou prendre possession d'une personne. Alors, que les choses soient bien claires, le démon ne peut prendre possession d'une personne que dans une certaine mesure, et parce que la personne l'a laissé faire. Alors, personne n'est possédé par le démon malgré lui. Ça n'existe pas. Les cas de possession, c'est toujours que la personne a fait soit du spiritisme, soit est allée voir des voyants, ou a invoqué des esprits bizarres, ou a fait intérieurement une espèce de pacte. C'est bien clair. Aucune personne ne peut être infestée par le démon sans qu'elle lui ait laissé une porte d'entrée. Parce que le démon n'a pas accès à notre volonté et à notre intelligence. Le démon, c'est le maître de l'illusion. Il nous fait croire des choses. Il nous fait croire, il nous fait voir des choses, il nous fait croire que on n'y arrivera jamais, ou croire que Dieu nous a abandonnés, il nous fait voir les choses de façon très 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 noire, ou au contraire nous faire des illusions en disant si je fais ça, si je fais ceci, cela, eh bien j'obtiendrai quelque intérêt, etc. Mais c'est évidemment le prince du mensonge. Donc il faut absolument refuser les mensonges du démon. Et c'est la façon, c'est ainsi qu'on ne se laisse pas, qu'on ne peut pas être mis et soumis à l'emprise du démon. Alors des lieux qui soient infestés, ça évidemment, ça existe. Alors ça, j'en ai vu dans le sens où on m'a témoigné un certain nombre de choses tout à fait étonnantes, des maisons hantées, ça existe tout à fait. D'ailleurs, quand on me dit qu'il y a des esprits qui hantent la maison ou des âmes en perdition, en fait, ça, dans la théologie catholique, c'est plutôt du domaine de la façon de parler, parce que les âmes du purgatoire ne peuvent pas véritablement agir dans le monde. En revanche, des âmes du purgatoire peuvent, par une grâce divine, permettre qu'un ange, que leur ange gardien, par exemple, agisse dans le monde de sorte que on prie pour elles. Moi, après, tu m'avais raconté une histoire tout à fait crédible de quelqu'un qui, d'une veuve qui entendait les pas de son mari tous les soirs, qu'elle reconnaissait parce qu'il était, il était boiteux, enfin, où il avait une jambe de bois. Et donc, elle entendait l'esprit de l'âme de son mari monter l'escalier, entrer dans la chambre. Et c'est parce que, en fait, il y avait une somme d'argent que le mari avait gardé pour faire dire des messes pour le repos de son âme. Et la veuve, par prudence ou par... fausse prudence, et bien garder cet argent au lieu de faire dire les messes qu'elle aurait dû faire dire. Et de fait, des lieux comme ça, hantés, comme on dit, et bien c'est souvent permis par Dieu pour que, donc c'est les anges ou des démons qui peuvent se manifester en vue d'obtenir quelque chose, et en général c'est des prières pour des défunts. Et donc, s'il y a un lieu qui est hanté, allez voir le prêtre, et le prêtre va dire des messes, va dire des messes, et c'est sûr que le lieu sera libéré de cette présence, de cette emprise du malin. Alors, je reviens sur ce que je disais il y a un instant. Il faut faire très attention à toutes ces choses. On en parlera quand on parlera des commandements, du premier commandement, mais qui semblent plus ou moins anodines, que malheureusement certains jeunes font, par exemple le Ouija, ou faire tourner des tables, ou invoquer des esprits, pour plaisanter, soi-disant pour plaisanter, et c'est ça qui est véritablement une porte d'entrée pour le démon. Donc il faut absolument, absolument se méfier de toutes ces choses ésotériques, New Age, tout ce qui est la franc-maçonnerie aussi, parce que dans la franc-maçonnerie, il y a des espèces de rituels qui ne sont pas chrétiens, qui prétendent être chrétiens, qui utilisent des formules chrétiennes, mais dans un but détourné de leur finalité. Et donc, tout ça, c'est la porte ouverte à une présence du démon, donc il faut vraiment s'en méfier. Il faut s'en prémunir pour ne pas être soumis au démon. Alors, une autre chose très, très importante, très importante. Lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on est baptisé, lorsqu'on pratique la foi chrétienne, lorsqu'on prie chaque jour, lorsqu'on va à la messe le dimanche, on a tous les instruments, tous les moyens de lutter contre le démon. Le Christ, la Sainte Vierge, les saints sont évidemment bien plus forts que le démon. La puissance de Dieu à travers l'Église est bien plus forte que le démon. Donc, celui qui pratique tous les dimanches, celui qui prie chaque jour, n'a rien à craindre du démon. Régulièrement, ça m'arrive que les gens disent « Oui, je crois que telle personne est possédée » ou « Moi, on a dû me jeter un sort, rien ne va, etc. » La seule réponse, c'est est-ce que vous allez vous confesser régulièrement ? Est-ce que vous êtes baptisé déjà ? Est-ce que vous allez vous confesser régulièrement ? Est-ce que vous allez communier le dimanche ? Est-ce que vous vivez chrétiennement ? Est-ce que vous priez chaque jour ? Est-ce que vous dites le chapelet ? Et puis, la Sainte Vierge, c'est celle qui écrase la tête du démon. C'est ce que Dieu dit, la femme t'écrasera la tête. C'est ce que Dieu dit au démon en le chassant du paradis terrestre dès le premier livre de la Genèse. C'est aussi une réponse aux protestants qui mettent la Sainte Vierge de côté. Dieu a annoncé depuis la création des premiers hommes que c'est une femme qui viendrait extirper le mal du monde, en donnant évidemment le Messie, en donnant le Christ à l'humanité. Alors, le premier exorcisme, la première façon de lutter contre le démon, c'est évidemment de vivre chrétiennement. Dans le baptême, il y a un exorcisme, ici c'est écrit donc sous sa forme simple de l'exorcisme, il est pratiqué lors de la célébration du baptême. Voilà, il y a un exorcisme, dans la forme traditionnelle, il y a plusieurs exorcismes qui explicitement rejettent le démon loin de l'enfant qui va être baptisé, et lui ordonne, d'ailleurs c'est il y a des passages qui peuvent être dits en français quand on parle aux gens, parce qu'il y a des questions qui sont posées par l'Église, mais lorsque le prêtre parle au démon, il parle en latin, et pour signifier la puissance de l'Église, et que c'est une prière de l'Église et l'autorité de l'Église qui ordonne au démon de laisser tranquille cet enfant. Donc le baptême et les autres sacrements sont évidemment les premiers exorcismes. Ensuite, il existe l'exorcisme solennel, appelé grand exorcisme, mais qui ne peut être pratiqué que par un prêtre catholique et avec la permission de l'évêque. Donc là encore, il faut se méfier, il faut avoir une grande méfiance pour tous les charlatans qui prétendent, qui vont vous prononcer des formules, qui vont vous faire des tours de magie, qui vont vous voir l'avenir ou vous libérer de ceci ou cela. Seul un prêtre catholique, avec la permission de l'évêque, est habilité et a une véritable autorité sur le démon. Tous les autres sont des charlatans. Et alors, non seulement ça va pas fonctionner, mais en plus, si ça a l'air de fonctionner, c'est que peut-être ça, la situation va devenir pire qu'autre chose. Donc là-dessus, il faut être vraiment intransigeant, absolument intransigeant. Et si un prêtre vous dit, si vous allez voir un prêtre, si le prêtre vous dit que il n'y a pas besoin d'exorcisme, eh bien faites confiance au prêtre. Faites confiance au prêtre. Vous savez d'ailleurs, aujourd'hui dans le monde contemporain, voilà, des pseudo-lumières rationalistes d'aujourd'hui, le démon n'a même pas besoin de se, il n'a pas besoin de se cacher, d'employer des subterfuges, des possessions, etc. Le démon a libre cours, il a pignon sur rue dans tout ce qui est, enfin tous les ennemis de la foi, que ce soit le socialisme, le wokisme, enfin toutes ces choses qui toutes ces idéologies qui explicitement le laïcisme, etc., qui s'opposent à la foi. Le monde n'a même plus besoin d'utiliser des trucs. Bon, alors dernière question de ce petit chapitre, très court chapitre. Quelles sont les formes de piété populaire qui accompagnent la vie sacramentelle de l'Église? Alors très courte question, mais très grande réponse. Le sens religieux du peuple chrétien a, de tout temps, trouvé son expression dans des formes variées de piété qui entoure la vie sacramentelle de l'Église, telles que la vénération des reliques, les visites au sanctuaire, les pèlerinages, les processions, le chemin de croix, le rosaire. À la lumière de la foi, l'Église éclaire et favorise les formes authentiques de piété populaire. Alors pourquoi est-ce que je dis que c'est une grande réponse? Parce que je pense qu'il est urgent de retrouver ces formes authentiques de piété populaire. Notre pays était parcouru, chaque région avait ces formes de dévotion, ces formes de piété populaire, qui ont été saccagées, il faut oser le dire, saccagées par les prêtres en premier lieu et les chrétiens depuis les années 50, sous prétexte qu'on était devenus adultes dans la foi, que c'était des restes de paganisme, qu'il fallait enfin intellectualiser la foi. Bah, le résultat, c'est que ça a fait fuir tout le monde et que bah, les gens ne pratiquent plus et que le pays n'est plus chrétien. Voilà. Donc, si on veut refaire de notre pays un pays chrétien, eh bien, il faut retrouver toutes ces traditions, ces formes variées de piété. La vénération des reliques, dans toutes les églises, dans toutes les campagnes, vous avez des reliquaires avec des saints, avec des restes de saints locaux, parce qu'il y a les saints connus, les saints du calendrier, mais il y a tous les saints locaux. Alors, bon, en Bretagne, on sait faire, puisqu'ils ont des prénoms tellement particuliers que on les porte avec honneur, avec fierté. Mais dans toutes les campagnes, vous avez des saints qui ont été canonisés par la piété populaire. En général, il n'y a pas de procès de canonisation, évidemment, mais c'est des gens qui ont habité sur place dans la région et qui ont été dans la vie et restés comme un souvenir de sainteté. Soit des martyrs, soit tel et tel exemple qu'ils ont procuré. Et donc vénérer les reliques, c'est très important, très important. Quand on fait une procession, porter des reliquaires, les mettre en bonne place pour la fête du saint, sortir les reliquaires. Et voilà, il faut encourager vos prêtres à faire ça. Et puis les visites au sanctuaire, évidemment, dans toutes nos régions françaises, on a des magnifiques sanctuaires, des lieux de pèlerinage. Voilà, le pèlerinage, bon, ça revient un petit peu à la mode, j'allais dire, mais bien sûr, le pèlerinage, c'est une démarche spirituelle qui est magnifique, qui est très importante. Les processions. Alors, c'est vrai qu'il y a le chemin de croix qui est fait maintenant souvent dans les villes pour le Vendredi Saint, mais les processions. Alors c'est vrai, je suis allé en Corse. Les Corses ont gardé, heureusement, et ils ont retrouvé même de plus en plus les confréries avec toutes les processions, en particulier pour la Semaine Sainte, pour les fêtes des saints. Ça, c'est magnifique. Mais autrefois, il y avait ça partout en France. Il y avait ça partout en France. En Bretagne, il y avait les pardons. Dans tout village, avait son pardon. Et tout le village se retrouvait, parce qu'en plus ces événements, ce sont évidemment des événements de populaires. Il faut que ce soit accompagné d'une bonne galette bretonne et d'une bolée de cidre, ou plusieurs bolées de cidre en Bretagne. Et puis dans le sud, c'est accompagné, j'imagine, avec un peu de pastis ou beaucoup de pastis. Mais autour de la fête d'un saint, autour d'une procession, c'est très important de participer à ces choses-là et de s'engager pour organiser ces processions, remettre les sanctuaires au goût du jour, les ouvrir pour qu'ils soient disponibles, etc. Et donc, et puis, mentionné ici aussi, évidemment, le rosaire, la prière du rosaire, c'est-à-dire la prière du chapelet. J'espère que tous ceux qui m'écoutent disent le chapelet tous les jours. C'est une prière qui est facile à dire. On peut, vous savez, si vous ne savez pas, tiens, peut-être petite publicité gratuite pour Rosario. C'est une application très pratique qui vous explique d'ailleurs exactement ce que c'est que le chapelet et ça vous permet de vous inscrire sur des groupes qui récitent le rosaire pour ne pas être seul et pour prier en groupe. Donc vous engagez à dire une dizaine de chapelets, c'est-à-dire 10 Je vous salue Marie, sachant que le chapelet est composé de 5 dizaines de chapelets, donc ça fait 50 Je vous salue Marie, et que le rosaire c'est 3 chapelets, c'est-à-dire 150 Je vous salue Marie, comme les 150 psaumes. On dit que le rosaire c'est le psautier du pauvre ou de celui qui ne connaît pas les psaumes. Et puis comme aussi, puisqu'on dit 150 Je vous salue Marie, plus on commence par 3 Je vous salue Marie, les 153 comme les 153 poissons de la pêche miraculeuse qui a suivi la résurrection. Alors retrouvons ces formes authentiques de piété populaire. Elles sont fondamentales pour non seulement pour entretenir notre foi personnelle et la faire grandir, et la faire grandir notre amour de Dieu, notre charité envers les autres, mais aussi pour reconstituer une société chrétienne. Alors comme toujours, prions l'Esprit Saint de nous éclairer pour mieux comprendre, mieux intégrer dans notre vie cet enseignement de l'Église. Venez Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre prix, Seigneur, il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez instruit les cœurs de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, afin de jouir sans cesse de ces divines consolations. Par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Merci à tous de votre fidélité et de votre écoute attentive de cet épisode. Faisons rayonner autour de nous ces belles vérités de la foi catholique et surtout n'oublions pas de prier les uns pour les autres. Priez pour moi, je prie pour vous et que Dieu vous bénisse. C'était l'abbé Mathieu Raffray. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette saison 2 de Sursum Corda.